Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie et d'être fidèle particulièrement à notre émission Un jour dans l'histoire. Je suis heureux de recevoir à ce micro Arnaud Tessier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes ancien élève de l'école normale et de l'ENA, écrivain, historien. Je vous ai reçu notamment à Canal Académie pour nous parler de Lyautey et de Peggy, si mes souvenirs sont bons. Et vous venez de publier chez votre éditeur Perrin, donc, une biographie, j'allais dire, un peu improbable, d'un personnage qui est peu connu, même quasiment inconnu. J'allais dire, d'ores et déjà, on connaît très mal le 19e siècle. Donc c'est ce personnage, c'est Louis-Philippe, le dernier roi des Français. C'est un personnage qui n'a jamais eu bonne presse et qui souffre, qui a été maltraité en quelque sorte par les historiens.
Oui, c'est très étrange. D'ailleurs, les gens se me demandent souvent, mais pourquoi une biographie de Louis-Philippe ? Et puis, si vous lisez ce texte un peu étonnant de Malraux, Les chaînes qu'on abat, il parle du dialogue un peu inachevé entre les grands hommes et les grands écrivains, qui est destiné à introduire un peu le dialogue entre Malraux, grand écrivain, et De Gaulle, grand homme d'État. Il cite comme exemple Victor Hugo et Louis-Philippe. Il dit Victor Hugo, certes grand écrivain, mais il dit Louis-Philippe, à quoi bon ? Et ça, je crois que c'est très révélateur de toute une tradition qui a tendance à ignorer Louis-Philippe ou à le considérer avec un certain mépris parce qu'il s'identifie pour beaucoup de gens et même pour beaucoup d'historiens à quelqu'un de soit de fade, soit de manipulateur, soit de fourbe, soit d'empâté, de bourgeois. Enfin, véritablement, il cumule tous les défauts. Et si quelquefois la monarchie de Juillet trouve grâce aux yeux des historiens, parce que personne ne peut nier que c'était une période à la fois d'affirmation des libertés parlementaires et d'expansion économique, et une période de grande fertilité pour la littérature, Louis-Philippe, finalement, on l'ignore et on ne sait pas très bien qui c'était, sinon un homme qui était le roi bourgeois, la poire croquée par Daumier avec grand talent, ou le souverain éreinté par Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe.
Dans une interview du Choc du Mois, Arnaud Tessier, vous dites précisément qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce roi. Vous répondez « La personnalité de Louis-Philippe m'a toujours paru infiniment plus riche ». Mais j'allais dire, j'ai envie d'aller un peu plus en amont. Quand est-ce que vous avez réellement décidé, vu le fait que ce Louis-Philippe n'est pas ce personnage négatif qu'en a fait l'histoire ?
Il y a des faits circonstanciels. D'abord, mon ami Laurent Theis m'avait suggéré de faire ce livre en me disant « Je voudrais que tu étudies le roi, mais le roi dans son mode de fonctionnement, dans son caractère de souverain, parce que finalement, il a été peu ou pas étudié », me disait-il. Et par ailleurs, c'est un personnage qui m'a toujours paru un peu mystérieux, parce que finalement, il a encore une fois cette sorte de couche sédimentaire, d'épaisseur de la satire, de la caricature, et de l'image de l'orléanisme, de la monarchie bourgeoise, enfin de tout ce que la modernité réprouve d'une certaine manière. Et en même temps, il me semblait quand même, en réfléchissant à la période et à ce qu'il avait incarné, au règne qui avait été le sien et à la période qui avait été la sienne, que cette modernité, il en avait été un des éléments porteurs. Donc il y avait quelque chose d'un peu contradictoire, repoussé par la modernité, en même temps, un des hommes qui avait été porteur de la modernité française. Et puis tout simplement parce que j'ai lu, voilà, ça c'est peut-être le côté homme de livre, de vieux livre, j'ai lu des textes de Louis-Philippe depuis longtemps, j'ai lu ses mémoires sur la Révolution, et il me semblait que cet homme-là était plus intéressant qu'on ne le pensait. Voilà. Donc j'avais envie d'un peu de percer cette énigme d'un homme qui avait l'air tout sauf énigmatique, puisque son procès était réglé depuis longtemps.
Il y a une phrase que vous écrivez dans votre avant-propos, « Mieux vaut en effet être le neveu de l'empereur que le fils d'égalité ». Et ce qui ressort à la lecture de votre biographie d'un point de vue général, mais nous aurons l'occasion d'y revenir, c'est que à l'aune du romantisme, en fait, Louis-Philippe n'est rien, alors que Napoléon III est tout, alors qu'à l'aune de la politique, et la vraie politique, à la fois la politique intérieure et le maintien de la paix à l'extérieur, eh bien Louis-Philippe a un blason plus beau que celui de Napoléon III.
Tout à fait. Napoléon III est un personnage assez fascinant, je ne dirais pas le contraire.
Nous sommes d'accord, oui.
Mais son règne s'est achevé de manière catastrophique. Alors, vous me direz, celui de Louis-Philippe aussi, mais celui de Philippe ne s'est pas achevé par une défaite militaire terrifiante et par le découpage du territoire français. Le bilan global du règne de Louis-Philippe est jugé d'ailleurs généralement comme très positif. Il y a une chose fâcheuse dans le règne de Louis-Philippe, c'est sa chute. Mais sa chute, ça a été une révolution qui finalement a ramené le système impérial et puis sous une forme qui n'était même pas le système napoléonien, mais sous une forme quand même passablement dégradée. Et donc c'est assez étrange parce que cet homme qui finalement était assez, encore une fois, moderne dans le bon sens du terme, qui avait contribué à faire entrer la France dans une ère nouvelle de son histoire, eh bien, il tombe en 3 jours dans des conditions presque ridicules. Et puis, quel va être le résultat? Ça va être de ramener par un coup d'État le neveu un peu obscur et très comploteur, pour le coup, de Napoléon, et qui va finalement marquer lui aussi une période importante pour la modernisation de la France sur le plan économique, mais dont le règne va quand même se terminer de manière un peu catastrophique et qui va être l'antithèse de Louis-Philippe, effectivement, en matière de politique étrangère, puisque l'obsession de Louis-Philippe, ça a été de maintenir la paix tout en maintenant le rang de la France. Et Napoléon III, c'était une politique étrangère extrêmement aventureuse, dont l'échec final, évidemment, pouvait se laisser deviner. Donc voilà, il y a quelque chose d'étrange dans cette histoire de France. On renverse Louis-Philippe pour mettre qui, par le suffrage universel, à la tête de l'État qui va faire un coup d'État, un Bonaparte. L'histoire rabâche, l'histoire bégaye, l'histoire se répète. Et pourtant, c'est Louis-Philippe qui, finalement, est le moins romantique des personnages, celui qu'on oublie ou qu'on ignore ou qu'on méprise.
Eh bien, nous allons nous employer à mieux comprendre ce personnage. Mais peut-être, avant de le comprendre, on ne peut s'empêcher d'évoquer Louis-Philippe sans considérer l'ombre d'un père. Et quel père? C'est Philippe Égalité.
Oui. Alors, ce père dont l'ombre va peser sur toute son existence, d'abord parce qu'elle va créer chez Louis-Philippe, d'abord duc d'Orléans, ensuite roi des Français, elle va créer chez lui un sentiment, sinon de culpabilité, mais en tout cas, elle va installer dans son esprit le doute sur sa propre légitimité.
Il gardera toujours ce doute tout au long de sa vie.
Oui, oui, je crois qu'il portera toujours le péché du père sur les épaules, oui. D'abord parce qu'on le lui rappelle, en lui disant qu'il est fils de régicide. Et ensuite, parce que c'est un homme scrupuleux et il va transmettre à ses enfants le même scrupule. Et ce qui explique d'ailleurs que ses fils, qui étaient en position militaire, peut-être, d'intervenir sur le cours des événements en 1848, vont se ranger immédiatement sous la bannière de la légalité parce que leur père les aura éduqués totalement dans cet esprit pour ne surtout pas donner le sentiment qu'il recommence. Et il y a quelque chose de tragique dans le dessein de Louis-Philippe qui cherche toujours à faire avaliser le fait qu'il n'est pas un comploteur, qu'il n'est pas comme son père, qu'il n'est pas quelqu'un qui complote, qui trahit, et qui en réalité, par souci extrême de l'égalité, va laisser les choses lui échapper et son propre régime, qui était un régime plein de promesses, s'effondrer. Alors, il faut peut-être apporter deux tempéraments sur l'affaire de Philippe Égalité. D'abord, ce malheureux duc d'Orléans, qui était surtout, comme on le voit dans les mémoires de Grace Elliott, qui ont été portées à l'écran de par manière Romain, magnifique, et dans L'Anglaise et le Duc, de manière admirable, comme on le voit dans ses souvenirs de sa maîtresse anglaise, Grace Elliott, c'était un homme faible, un homme qui a cédé à la peur et aux influences néfastes d'une partie de son entourage et qui s'est laissé entraîner dans un engrenage. Son nom même de Philippe Égalité, sous lequel il est désigné à jamais pour l'éternité, il en a hérité tout à fait à la fin et sous la contrainte. Il a été obligé de prendre ce nom un peu ridicule, il l'a avoué à son fils, parce qu'il avait peur, tout simplement. On ne lui a pas laissé le choix. Le duc d'Orléans est devenu Philippe Égalité sur ses derniers jours, et au moment où il était au bord de la déchéance suprême. Donc ce n'était pas une sorte de personnage conquérant s'affirmant comme étant Philippe Égalité, le prince révolutionnaire. C'était avant tout un faible et un homme qui a eu peur et qui s'est laissé conduire par les événements. Le deuxième élément, c'est qu'il a eu peur, il s'est laissé conduire par les événements, jusqu'à un acte éminemment, effectivement choquant, qui est d'avoir voté la mort du roi. Mais il s'est laissé conduire par les événements comme tous les princes de son temps. Et ça, Louis-Philippe en est conscient. D'abord comme le premier d'entre eux, comme le roi Louis XVI, qui n'a été que le malheureux, malgré son immense courage moral, qui n'a cessé d'être à la traîne des événements et qui a laissé le pouvoir lui échapper, qui a cédé pièce après pièce. Ou ses frères, enfin le comte d'Artois, qui 3 jours après la prise de la Bastille quitte le territoire. Ou le comte de Provence, qui était impliqué dans un malheureux complot contre la personne même de Louis XVI. Donc tout ce petit monde n'est pas glorieux. Et je crois que Louis-Philippe, tout en portant cette culpabilité particulière de son père, était en même temps un homme qui était conscient que la Révolution française avait été avant tout la projection vers l'abîme de la monarchie, de ses principes et de toutes les vertus qui auraient dû guider les princes. Et je crois que ça, ça l'a marqué.
Alors vous présentez un personnage qui est assez, j'allais dire, extraordinaire. Il n'est pas extraordinaire. Elle est originale puisqu'il s'agit d'une femme par son ampleur et par son influence sur Louis-Philippe. c'est celle qui va s'assurer de son éducation, Madame de Genlis. Et cette éducation, c'est absolument pas une éducation réactionnaire, c'est vraiment une éducation comme d'ailleurs la plupart des princes, comme beaucoup de princes l'ont reçue tout au long du XVIIIe siècle, c'est l'Émile de Rousseau.
Oui, c'est très contradictoire d'ailleurs l'éducation de Madame de Genlis, parce qu'à la fois elle s'inspire beaucoup de l'Émile de Rousseau à la façon dans le caractère un peu moral de l'éducation, dans les exercices physiques, et en même temps, elle est assez réservée aussi vis-à-vis de certains courants philosophiques. Elle est partagée entre deux extrêmes, c'est-à-dire soucieuse d'être quelqu'un de son temps et de mettre ses élèves dans l'esprit du temps, et puis en même temps, soucieuse aussi de leur rappeler qu'ils sont princes. Donc il était un peu l'objet d'une éducation un peu contradictoire à l'image de cette femme, qui était avant tout une femme extrêmement ambitieuse, calculatrice et je pense assez cynique. Mais en même temps, cette éducation a produit sur lui un effet qui est aussi contradictoire, c'est-à-dire qu'il en a été un peu opprimé, parce qu'il y a eu une relation quand même un peu étrange et douloureuse avec cette femme qui cherchait à dominer les enfants dont il avait la charge, aussi bien Louis-Philippe que sa sœur et ses frères, mais en même temps, elle lui a communiqué quelques principes qui lui ont servi ensuite, et notamment elle lui a appris par certains côtés certaines formes de réalisme.
Vous écrivez, Madame de Genlis, voyez ses convictions s'évanouir, ses convictions révolutionnaires évidemment, s'évanouir au moindre danger, puisque danger il y a, et c'est parce qu'il y a danger qu'il y a cet exil. Est-ce que la vie politique commence par l'exil ? Quel est le rôle, au fond, de Louis-Philippe ? Est-ce qu'il a un rôle pendant la Révolution ? Et quelle est son appréciation du règne de Louis XVI ?
Il a un rôle, je dirais, militaire. Enfin, il adhère au Club des Jacobins avant que le Club des Jacobins suive cette évolution très rapide, alors que le Club des Jacobins est encore un cercle modéré au début de la Révolution. Et puis, c'est un militaire. Il se bat dans les armées de la Révolution. Donc, c'est une figure, on l'appelle le général égalité à la fin, c'est une figure militaire, plus qu'une figure politique. Il est tout jeune, hein, il ne faut pas l'oublier, il a une vingtaine d'années, et c'est un témoin surtout. Il est témoin dès les premiers jours, puisqu'à l'ouverture des États généraux, en 1789, comme son père a voulu siéger parmi les États et ne pas tenir sa position de premier prince du sang, c'est le jeune duc de Chartres, c'est-à-dire le futur Louis-Philippe, qui tient cette position aux côtés de Louis XVI, la première position comme premier prince du sang. Et il est le témoin aux premières loges, c'est le cas de le dire, des premiers actes de la Révolution française et des premiers gestes de la monarchie qui vont être des gestes de faiblesse et de décadence successive. Et je crois qu'il a conçu à la fois au spectacle de son père, au spectacle même de Madame de Genlis, effectivement, et de sa peur si manifeste, et puis au spectacle de la façon dont Louis XVI s'est laissé entraîner par les événements, je crois qu'il a conçu une sorte de peur de la peur. Louis-Philippe était un homme d'un tempérament stable, il avait du caractère, mais en même temps c'était un homme très cultivé, très modéré. Et je crois qu'il a toujours été tourmenté par cette idée qu'il ne fallait pas céder à la violence, parce qu'il a eu l'horreur de la violence dont il a vu les premières manifestations sous la Révolution et dont sa famille était directement victime. Mais en même temps, il avait peur d'être faible, parce qu'il avait été très marqué par ce à quoi il avait assisté, c'est-à-dire la faiblesse généralisée des institutions, l'effondrement. Et comme Rivarol, et je suis certain qu'il avait lu d'assez près les textes de Rivarol, Rivarol l'a constaté dans son journal politique national. La Révolution, c'est une chute de l'autorité.
Sa jeunesse n'empêche absolument pas sa lucidité. Et finalement, on est même étonné que ce personnage prenne ce recul par rapport à ces événements. Il tente même, vous le montrez, vous le décrivez, il tente de dissuader son père de voter la mort du roi.
Ah oui, il a cherché désespérément à l'en empêcher, comme d'ailleurs certains membres de l'entourage du duc d'Orléans. Mais justement, il était confronté. Au moment même où il tentait de l'en dissuader, il sentait, et que son père lui disait qu'il ne se laisserait pas faire, ça se sent dans les mémoires de Louis-Philippe. Il sentait presque instinctivement que son père allait céder. Il a senti physiquement cette sorte de pulsion, qui est la pulsion de la faiblesse, de la lâcheté, dans les grandes circonstances politiques, qui est quand même un des éléments fondamentaux de la vie politique, de l'histoire. Je crois que ça l'a profondément marqué. Il a toujours eu peur d'être un lâche, tout en étant un homme qui voulait assumer ses responsabilités, mais avec modération. Donc il a toujours été obligé de se garder. Je crois qu'il était à la fois le successeur des Capétiens, quand il est monté sur le trône, le successeur de la Révolution, parce qu'il savait qu'il devait en reprendre certains éléments, et le successeur de Napoléon, qui était une grande gloire militaire. Ça fait beaucoup d'héritage à assumer pour un seul homme, et je crois que c'est ça qui explique beaucoup de ses contradictions.
Lui-même va laisser un héritage jusqu'à nos jours, hein. Je l'expliquerai dans un instant, Arnaud Tessier, nous nous retrouvons dans quelques secondes.
Canal Academy vous propose une série d'émissions consacrées au compositeur Olivier Messiaen. Sa grande sensibilité aux chants d'oiseaux, son sens de la pédagogie au Conservatoire de Paris, sa prédilection pour l'orgue. François-Bernard Mache, Claude Samuel et Michel Fischer apportent leur témoignage sur ce grand musicien du XXe siècle. Ces émissions sont à écouter sur canalacademy.com.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée au dernier roi des Français, Louis-Philippe. Vous venez de publier, Arnaud Tessier, aux éditions Perrin, une biographie qui est plus une biographie politique, une réflexion sur le gouvernement qu'une simple énumération des faits. C'est ce qui fait la qualité de votre travail. Nous avions laissé Louis-Philippe donc au tout début de son exil, et cet exil est assez fascinant parce qu'il fait littéralement le tour du monde. C'est un personnage, on pense même à un personnage de roman, tant les aventures sont extraordinaires.
Oui, la Suisse, l'Allemagne, l'Europe du Nord, la Laponie, l'Amérique, et bien sûr la Sicile, l'Angleterre, c'est moins aventureux. Mais il a mené pendant presque 20 ans une vie d'exil et de voyage qui est à la fois, oui, c'est à la combinaison des deux, c'est à la fois des temps d'exil pour lui, c'est-à-dire qu'il se serait bien dispensé de ces longues pérégrinations qui pour lui n'ont pas toujours été faciles matériellement, et puis c'est aussi des années de voyage et de découverte du monde, un peu dans la tradition d'une certaine aristocratie du XVIIIe siècle. C'était un esprit curieux qui avait été élevé, il avait été doté d'une solide éducation, un esprit cultivé, qui savait observer. Il a laissé des souvenirs sur son voyage en Amérique, qui sont fort intéressants. Ce n'est pas un talent littéraire en tant que tel, mais qui montre que c'est un homme qui savait observer, qui savait voir les paysages, qui savait comprendre les caractères. Et donc, il y a les deux côtés, voyageur et exilé. Il a essayé de combiner les deux, mais je crois quand même que pendant toutes ces années, je crois que son sentiment le plus fort qui dominait, c'était celui de l'exil. Et c'est pourquoi, finalement, il n'a commencé à se sentir bien que lorsqu'il s'est établi en Angleterre, à l'époque du consulat en France, et lorsqu'ensuite il a épousé Marie-Amélie et qu'il s'est installé à Palerme, qu'il a ainsi commencé son entreprise de réconciliation avec la branche aînée, et que là il a retrouvé une vie, qui était encore une vie d'exilé, mais plus stable. Et il faut dire que les années avaient passé, qu'il avait vieilli.
Bainville, que vous connaissez bien, que vous citez à plusieurs reprises, disait que la noblesse, les princes de sang sont les seuls vrais cosmopolites, et Louis-Philippe apparaît comme tel, un véritable cosmopolite.
Oui, et en particulier par sa pratique des langues, et cette pratique parfaite qu'il avait de l'anglais. Donc on voit d'ailleurs dans ses notes, parce qu'il ponctuait tous les notes, les correspondances, il aimait mettre des formules anglaises, il maîtrisait parfaitement l'anglais, il correspondait avec toute l'élite anglaise, il parlait plusieurs langues, c'était un homme qui véritablement était, oui c'est vrai, très cosmopolite par ses goûts, par ses lectures, et qui était connu comme tel.
On associe l'exil, évidemment pour beaucoup de personnages de son époque, à l'émigration. Quel était son sentiment vis-à-vis de ces émigrés qui observaient donc ce qu'il se passait en France?
Il a marqué très tôt une forte réticence vis-à-vis des milieux de l'émigration, qu'il appelait l'émigrerie d'ailleurs. Il considérait que les milieux de l'émigration se trompaient dans leur analyse de la politique européenne, qu'ils prenaient des risques considérables en prenant les armes contre la France. Et lui, il avait gardé cette dimension un peu du prince patriote. Il considérait que c'était une erreur qui créait un fossé irrémédiable entre la France, dont le tempérament national s'était affirmé malgré tout avec la Révolution, il l'avait pu le constater à Valmy, et les milieux de l'Ancien Régime. Donc il était extrêmement réticent vis-à-vis des milieux de l'immigration et vis-à-vis de l'idée à laquelle il s'est toujours refusé de combattre dans les rangs d'immigration avec les armées étrangères contre les armées françaises, même s'il envisageait cette possibilité au moment de l'affaire de l'Espagne et de l'invasion de l'Espagne par les troupes de Napoléon. Donc il avait, oui, une réticence très forte. Et en même temps, il a toujours voulu marquer vis-à-vis du comte d'Artois et de Louis XVIII, le comte de Provence devenu Louis XVIII, à la mort du dauphin, il avait toujours voulu marquer sa fidélité. Donc fidélité, démarche d'allégeance qu'il a faite, mais en même temps marquant toujours qu'il ne rallierait pas les armées de l'émigration, ce qui lui était dûment reproché. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en cela, il rejoignait les analyses des esprits les plus profonds et les plus intelligents de la pensée contre-révolutionnaire. Je pense en particulier à Mallet Dupan, qui est mort prématurément en 1800, mais qui a vu très tôt que la politique de l'émigration, que l'esprit de l'émigration était un esprit qui conduisait les adversaires de la Révolution dans une impasse. Mallet Dupan, grand penseur contre-révolutionnaire, l'a dit et écrit et a reconnu chez le jeune duc d'Orléans justement la qualité contraire, puisqu'il disait celui-là a su tirer profit de l'adversité. Quand il disait tirer profit de l'adversité, ce n'était pas pour dire tirer profit matériel, mais tirer un profit intellectuel. Il disait que Louis-Philippe avait compris quelle était la vraie réalité politique européenne. Donc quand Louis-Philippe se méfie de l'émigration ou réprouve une certaine attitude comme celle qui a prévaut autour du comte d'Artois, il n'est pas une sorte d'esprit en rupture de banc. Beaucoup pensent comme lui et beaucoup parmi les esprits les plus intelligents et les plus profonds du temps.
Quelle position prend-il à l'égard d'un Bonaparte puis ensuite d'un Napoléon ? Est-ce qu'il y a un moment, d'ailleurs vous posez la question, je ne retrouve pas l'année, vous écrivez, il est probable qu'à cette époque Louis-Philippe aurait pu franchir le pas, se rapprocher de Bonaparte, obtenir peut-être quelques positions, sans doute même un trône européen.
Oui, je pense que Louis-Philippe a toujours marqué une distance très nette dans ses courriers en particulier, dans ses multiples attestations de ses positions politiques qu'il a prises dans ses correspondances, dans un certain nombre de démarches qu'il a faites pendant ses années d'exil, a toujours marqué une vive réprobation vis-à-vis du système de Bonaparte et de Napoléon, du système consulaire et impérial. Ça, de ce point de vue-là, il a toujours observé une attitude assez continue. Au demeurant, on peut penser, même si c'est peu livré sur la question, qu'il avait une certaine admiration pour la geste napoléonienne, et puis on le verra ensuite, puisque sous la Restauration, l'essentiel de son entourage, ou une bonne partie de son entourage, de ses collaborateurs, des gens qui seront près de lui, seront d'anciens soldats, d'anciens généraux, officiers supérieurs de Napoléon. Il y a quand même autour de lui une nébuleuse qui est assez logique, puisque Louis-Philippe est à la fois l'héritier de l'Ancien Régime et en même temps un homme qui a adhéré au premier temps de la Révolution française, qui s'est battu dans les armées de la Révolution, à Valmy et à Jemmapes. Et donc, il est assez logique qu'il comprenne un petit peu le sens de l'aventure impériale. Mais il a cette réprobation, je pense, qui est une réprobation de principe, parce qu'il n'oublie pas qu'il est un prince, qu'il veut marquer son attachement à la légitimité. Et aussi, je pense, cette méfiance qu'il a et qu'il aura toujours envers les aventures militaires. Je crois qu'il a toujours réprouvé la spirale dans laquelle Napoléon se laissait entraîner en Europe.
Ce qui est étonnant depuis le début de cette émission, c'est que nous n'avons pas parlé de doctrine de Louis-Philippe. Est-ce qu'il existe une doctrine ? Est-ce qu'on sait qu'il aime l'Angleterre ? Est-ce qu'il apprécie le parlementarisme anglais ?
Alors ça, c'est un problème, parce que Louis-Philippe, et ça l'a servi politiquement, a toujours été présenté par ses partisans, par ceux qui voulaient lui faire jouer un rôle politique, notamment sous la Restauration, et par ceux qui ont voulu lui faire jouer un rôle politique qu'il a fini par jouer en 1830, l'ont toujours fait passer pour un prince à l'anglaise qui transposerait en France les pratiques, les bonnes pratiques du système britannique, de cette monarchie équilibrée et du parlementarisme britannique. Et il n'a jamais démenti cette image qui s'attachait à lui et qu'il portait aussi à travers son genre de vie. Quand il vivait en Angleterre, il aimait profondément l'Angleterre, le mode de vie anglais, il avait un côté gentry, c'était un mélange de chic et de décontraction dans la vie quotidienne dont ses enfants se souvenaient longtemps après. Donc, il avait un style anglais, qui lui était reproché d'ailleurs par certains, il avait un style anglais, on l'a beaucoup fait passer pour effectivement un adepte du système anglais, ce qui donne une cohérence évidemment, surtout quand on considère l'histoire du XVIIe siècle britannique et du rôle de Guillaume d'Orange et la façon dont la monarchie britannique s'est finalement restaurée, ce qui paraît assez cohérent. Mais dans le fond, je crois que quand on étudie sa pratique politique et sa façon de concevoir le gouvernement, il avait une vision qui était un petit peu différente, il avait une vision peut-être, alors pour le coup, plus autoritaire du pouvoir. Il y a peut-être eu une ambiguïté ou un malentendu entre lui et une partie des milieux politiques du temps, en partie des milieux libéraux.
D'ailleurs, à un moment, beaucoup plus loin dans votre ouvrage, quand il est au pouvoir, vous vous posez la question, est-ce que Louis-Philippe est orléaniste ? Est-ce que c'est un libéral ?
Oui, je crois qu'il y a eu une grande confusion qui atteint son sommet pendant la période d'exceptionnelle stabilité qu'a marqué le pouvoir de Guizot, c'est-à-dire entre 1840 et 1848, quand Guizot, d'abord comme ministre, mais en fait comme véritable chef de file du gouvernement, puis comme président du Conseil des ministres, quand Guizot gouverne aux côtés de Louis-Philippe, et Guizot incarne tout à fait un certain libéralisme politique qui est parfaitement en accord avec l'image générale. Et donc l'ambiguïté s'est renforcée. Mais en fait, je pense que Louis-Philippe avait une conception, encore une fois, plus autoritaire, personnelle du pouvoir, qui a d'ailleurs été explicitée. Lui n'a jamais exprimé de doctrine, mais des gens qui ont écrit pour lui, comme Roederer, qui était une figure juriste de la fin de l'Ancien Régime, qui avait été révolutionnaire, modéré, qui ensuite avait œuvré pour Napoléon. Roederer, qui a été finalement le théoricien, de, non pas de l'orléanisme, mais de la politique selon Louis-Philippe, développait des idées sur le pouvoir, qui ressemble très étrangement, enfin qui annonce très étrangement ce que sera la vision du pouvoir d'un De Gaulle dans les premières années de la Ve République, c'est-à-dire un parlementarisme qu'on qualifierait aujourd'hui de rationalisé, de très rationalisé, et un exécutif très fort incarné dans un personnage qui est le souverain républicain ou monarchique et devant lesquels les ministres sont en fait responsables. C'est une vision de la politique qui est quand même assez éloignée du système parlementaire et qui était, je pense, plus celle de Louis-Philippe. Mais quand vous dites on ne voit pas de doctrine, parce que là aussi le rapprochement peut paraître un peu sauvage, mais j'y crois profondément avec De Gaulle. Et comme De Gaulle, chez Louis-Philippe, la doctrine, c'est l'histoire. C'est-à-dire, c'est le spectacle et la compréhension de l'histoire. La doctrine, c'est, voilà, j'ai vu cela, j'ai compris cela, et j'agis en fonction de ce que j'ai vu et compris, pour ce qui me paraît être la plus grande adaptation aux réalités, aux intérêts du pays. Pas de doctrine, mais une extraordinaire appréhension de ce qu'est l'histoire, et donc de ce qu'est l'avenir.
Je reçois Arnaud Tessier, auteur de la biographie de Louis-Philippe, le dernier roi des Français, paru chez Perrin. À tout de suite.
Alain Besançon, Renaud Denoy de Saint-Marc, Henri Amouroux, Pierre Mazeaud, Jean Tullard, Jean Béchler, Mireille Delmas-Marty, Jacques Delarosière, Jean-David Levitte, ces philosophes, économistes, historiens, diplomates et juristes partagent leur passion et leur vision du monde. Retrouvez les membres de l'Académie des sciences morales et politiques sur Canal Académie.
Nous nous retrouvons avec Arnaud Tessier. Nous évoquons ce personnage, donc Louis-Philippe, le dernier roi des Français. Vous avez écrit, Arnaud Tessier, une biographie parue aux éditions Perrin. On tente de définir cette pensée politique de ce personnage et on peut le définir parce qu'il n'est pas ou il ne veut pas être. Il y a cette grande idée, donc après la fin de Napoléon, c'est la restauration. Or, on sent qu'il n'aime pas le terme de restauration. Il préfère le terme, ou plutôt le verbe, de réparer. Et c'est une chose qui domine véritablement son œuvre. Quelle différence entre cette restauration, cette idée de restauration qu'il respecte par souci de légitimité et cette idée de réparation ?
Je crois que c'est un terme que j'ai mis en exergue, je l'ai trouvé dans les notes de Louis-Philippe, mais ça m'est apparu comme étant véritablement l'illustration de ce qu'il voulait faire, et surtout quand on pense à ce qu'il a fait à Versailles. C'est-à-dire, Versailles, ce n'est pas une restauration, c'est une réparation du château. Et en même temps, c'est l'ouverture du château sur quelque chose de plus vaste. La restauration, ça veut dire que littéralement, on revient à ce qu'il y avait avant. On rétablit ce qui existait avant. Et cela, Louis-Philippe sait que ce n'est pas possible. Depuis le début, il sait que ce n'est pas possible. Comme, encore une fois, des penseurs contre-révolutionnaires aussi peu suspects de sympathie pour la Révolution que Rivarol ou Malet-Dupont le disaient bien avant lui. Et je pense qu'il les avait lus et qu'il les avait compris. Donc, restaurer, ça lui paraît à la fois une illusion et puis une ambiguïté majeure. Réparer, c'est différent. C'est un homme qui a une conscience aiguë des dommages de l'histoire, des dévastations que la Révolution et, dans une certaine mesure, la période impériale ont apporté à l'Europe et à la France en termes de vie humaine, de destruction, de guerre. Et donc, il sent qu'il faut réparer la France, réparer la société et réparer les monuments. Et Louis-Philippe, architecte, mérite véritablement d'être réétudié. Il y a des choses admirables dans le journal de Fontaine, qui fut son architecte après avoir été celui de Napoléon. Il y a véritablement cette intention-là qui est à la fois architecturale au sens propre et architecturale au sens de l'architecture de la société ou de la politique. En même temps, il sait qu'il a des outils pour cela, pour réparer le pays, et qu'il peut poursuivre une œuvre qui a été quand même engagée au-delà des aventures extérieures par Napoléon, grâce en particulier à l'œuvre de construction administrative et d'unité sociale que Napoléon a engagée avec la création de l'administration moderne et puis avec le code civil. Donc il reprend tout cela à son compte et il essaie de remettre les choses. C'est pour ça que j'ai cité à la fin du livre un texte étonnant de Victor Hugo dans Choses vues, où il montre Louis-Philippe dans le caveau où sont rassemblés les restes des différents princes de sa famille, où il passe une journée à retrouver les os d'un tel, à essayer d'identifier avec une sorte de soin maladif. Il y a cette idée que la France, l'image est peut-être un peu poussée, mais en fait que la France est un peu en morceaux. Elle a commencé d'être reconstruite grâce à une partie de ce qu'a fait Bonaparte, mais il faut poursuivre ce travail de restauration au sens d'une réparation et pas au sens d'un retour au passé.
Il y a une vraie volonté chez ce personnage. Et d'ailleurs, c'est cette volonté qui fait qu'il accepte au fond la charge qu'on lui donne après la chute de Charles X.
Il y a à la fois une hésitation au dernier moment, parce que toute sa vie, il a su que ce jour pourrait arriver, parce qu'il connaissait les faiblesses de la branche aînée. Il avait perçu assez vite les erreurs politiques du régime de la Restauration. Donc il n'a pas été surpris. Il n'a pas comploté, contrairement à ce qu'on a souvent dit. Et au moment fatidique, il a presque un peu reculé. Il a hésité, parce qu'il a vu comme le gouffre sous ses pieds. Et on peut comprendre, hein, une sorte de destin qui s'accomplissait d'une manière presque mécanique. Il y avait de quoi l'inquiéter. Et en même temps, il savait qu'il devait le faire. Et c'est cette formule extraordinaire qu'il employait un jour dans une lettre à Marie-Amélie, à son épouse, en disant « Nous sommes les derniers rois possibles en France ». Il savait que c'était la dernière tentative de pérenniser le système monarchique dans lequel il croyait. Donc il y a une volonté assez obstinée, effectivement, et qu'on perçoit pendant tout son règne, pendant 18 ans, une volonté assez obstinée, une sorte d'entêtement, que même ses critiques les plus acharnées, comme Chateaubriand ou Tocqueville, qui ont fait des portraits peu amènes de Louis-Philippe, ont perçu une sorte d'obstination qui est assez sourde et en même temps très frappante.
Il y a une ambiguïté dès le début, parce qu'au fond, d'où vient son pouvoir ? Est-ce qu'il est au pouvoir parce que c'est un prince de sang ? Ou bien parce que c'est la révolution ? Parce que, comme le disait Tocqueville, revoilà la révolution, car il s'agit toujours de la même. Donc, est-ce que ce pouvoir vient du fait qu'il soit un prince de sang ou bien de cette révolution ?
L'ambiguïté dès 1830, elle est présente, elle ne s'en ira pas. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'interprétation de Thiers, nous gardons la monarchie mais on change de dynastie. Et puis, il y a Lafayette, c'est la meilleure des républiques. Donc, il y a une ambiguïté fondamentale, hein, qui est naturelle dans des circonstances où finalement, un Bourbon, car c'est un Bourbon, même si c'est la branche cadette, monte sur le trône, mais à la faveur d'une révolution. Des situations de ce type ne sont pas inédites en Europe. Et puis en France, on a vu des choses étonnantes. On a vu effectivement des princes du sang voter la mort de Louis XVI. On a vu les frères de Louis XVI intrigués. On a vu beaucoup de choses étonnantes. Donc tout cela, je crois pas qu'il faut pas avoir une image figée de la tradition monarchique. Il y a toujours eu cela dans la tradition de la monarchie française. Mais il y a une ambiguïté quand même profonde. Et puis il y a une ambiguïté qui est celle de la France. Est-ce qu'il va être l'homme d'une France moderne et beaucoup plus démocratique, ou est-ce qu'il va pencher plutôt du côté de l'ancienne France ? Napoléon lui-même était un petit peu ambigu. Il avait à la fois des côtés, Napoléon, d'Ancien Régime, et puis il y avait aussi une certaine récupération de l'héritage révolutionnaire. Donc cette ambiguïté, elle ne va pas le quitter, et elle va lui être reprochée, parce qu'on va lui dire que finalement, il n'a pas de vraie légitimité. Il n'a pas la légitimité monarchique, il n'a pas la légitimité populaire véritable. Donc d'où vient sa légitimité ? Pour lui, sa légitimité, d'une certaine manière, ça a peut-être été sa faille, c'est que, quelle que soit sa pratique du pouvoir et ses conceptions autoritaires des choses, il respecte la charte.
Alors, c'est très important, parce que c'est le fameux article 14 qui crée la chute de Charles X. Et lui, il dit toujours « je respecte la loi, je respecte la loi ». Et respecter la loi, n'est-ce pas une perspective révolutionnaire ? Le roi, la nation, la loi telle qu'elle était définie dans les premières années de la Révolution française ?
Les premières années de la Révolution ont été une expérience de monarchie constitutionnelle. Alors, de fait, elle a échoué. Elle a échoué en raison d'un certain nombre de facteurs que Louis XVI ne contrôlait pas, mais elle a échoué aussi parce que Louis XVI, et c'est ce que Rivarol lui reprochait, et ce que Louis-Philippe lui reproche aussi, parce que Louis XVI n'a pas su anticiper, finalement, et il n'a pas su prendre les rênes de sa propre révolution, de cette révolution royale qu'il aurait pu faire et qui avait d'ailleurs été tentée en partie à la fin du règne de Louis XV au moment des réformes du chancelier Maupeou, cette idée que la monarchie devait se réformer elle-même et faire sa propre révolution. Donc il y a cette idée, effectivement, qui marque une ambiguïté profonde de l'époque. Mais je crois qu'il y a vraiment ce souci de respect de la loi qui n'est pas étrangère à la tradition monarchique, les lois fondamentales du royaume. Louis-Philippe, incontestablement, se distingue un peu de la tradition la plus absolutiste. Il a été élevé alors par Madame de Genlis, par la tradition des Orléans, de la branche cadette, dans un esprit qui n'est pas celui de l'absolutisme, mais plutôt d'une monarchie quand même limitée. Donc, ce n'est pas quelque chose d'entièrement nouveau pour lui, cette idée que le souverain doit respecter un certain nombre de lois qui s'imposent à lui. Mais en même temps, il est attaché à l'idée du pouvoir royal, de l'autorité du prince, et il le montre dans la façon dont il exerce le pouvoir, avec ruse quelquefois, en manipulant le milieu parlementaire, mais avec une certaine constance dans cette idée qui... Il faut assurer la dignité de sa fonction, à la fois en à l'intérieur et à l'extérieur.
Il y a toujours, pendant le règne, une opposition plus ou moins importante, une agitation à Paris. Quelle est la place dans cette opposition des carlistes, c'est-à-dire de ce parti qui soutient tout simplement la légitimité du fils de Charles X, le futur Henri V ?
C'est allé assez loin, parce que les carlistes ont purement et simplement voulu soulever le pays contre le régime, avec l'équipée fameuse et un peu pathétique de la duchesse de Berry, et puis avec les attentats. Une partie des attentats qui ont été organisés contre Louis-Philippe provenaient en partie de ce milieu, et puis les caricatures, les attaques politiques. Les années 1830-1835, qui sont d'une violence inouïe sur le plan des attaques contre Louis-Philippe dans la presse sous forme de caricatures ou d'articles, de pamphlets, des attaques d'une violence qu'aucun homme politique aujourd'hui ne supporterait. Hein. Et elles viennent beaucoup des carlistes. Et donc, voilà, il y a eu très clairement, dans une partie des milieux légitimistes, la volonté de déstabiliser, de renverser le régime, même si, en définitive, cela pouvait aboutir à une révolution plus grave et à la chute définitive de la monarchie.
Mais justement, on voit bien que Louis-Philippe est très lucide sur ce qu'il se passe, sur ce qu'il voit, sur ce qu'il observe, notamment grâce à sa connaissance de l'histoire. Est-ce qu'il n'a pas conscience, tout simplement, qu'il, de fait, crée une division au sein du royalisme ? Qui est une division qui va perdurer, et n'est-ce pas aussi pour cette raison qu'il dit « je suis la dernière chance de la restauration de la monarchie » ?
En fait, il pensait qu'il avait une chance plus durable qui s'incarnait dans son fils aîné.
Oui.
Ça, c'est certainement, pour le coup, les accidents de l'histoire, leur impact ne peut être négligé. Il avait énormément agi dans l'éducation de son fils aîné, de ses autres fils aussi, mais principalement de son fils aîné, duc de Chartres puis duc d'Orléans, Ferdinand Philippe,
Ferdinand, oui.
Qui l'avait préparé à l'exercice de la fonction monarchique, qui en 1842, au moment où il va mourir accidentellement à 32 ans, et qui incarne finalement l'avenir à la fois du pays, de la monarchie et de la dynastie, parce que le fils aîné Louis-Philippe avait une grande culture politique et historique comme son père, un grand réalisme politique, mais en même temps, il avait, et ça tenait à son éducation, à son caractère, une plus grande ouverture, à sa génération, une plus grande ouverture sur les réalités sociales de son temps. Il était véritablement formé pour régner. Et cette mort accidentelle, en 1842, est une véritable catastrophe qui a été perçue, en plus comme telle, par tous les contemporains qui étaient proches du pouvoir, qui l'ont écrit, à commencer par Victor Hugo, mais pas seulement Victor Hugo, par l'entourage de Louis-Philippe. Ils ont tous compris que ce jour-là, quelque chose de dramatique s'était produit. Et Louis-Philippe ne sera plus jamais le même. Ensuite, pendant les 6 années de la fin de son règne, il n'envisage pas, évidemment, de manière constante, la fin de sa dynastie. Mais il ne sera plus du tout dans le même sentiment de confiance et d'assurance qu'il avait enfin atteint à la fin des années 1830, au tournant des années 1830-1840, après les premiers temps du régime où il y avait eu beaucoup d'agitation, de révolte, d'opposition, puis des attentats à rythme rapproché, dont le célèbre attentat de Fieschi. Les attentats continueront après, mais quand même, il y a eu un tournant vers 1838-1840 où Louis-Philippe avait véritablement confiance dans la stabilité des institutions qu'il était en train de donner au pays. Et puis, la mort de son fils aîné a très certainement réinstauré le doute dans son esprit.
Mais de fait, quelle considération a-t-il de la branche aînée après avoir, enfin, vous le montrez bien dans votre livre, ce respect de la légitimité jusqu'à la monarchie de Juillet, jusqu'au début de la monarchie de Juillet?
Je pense qu'il avait, on le voit dans ses entretiens avec Louis XVIII et Charles X, dans ses... Je pense qu'il était sévère, et d'ailleurs on le lit dans certains de ses écrits, il était sévère pour la branche aînée et pour le comportement. Il considérait, et là encore il ne se distinguait pas de beaucoup d'observateurs, il considérait que l'émigration et l'éloignement des réalités avaient accentué les défauts de la branche aînée. Et puis il connaissait les défauts de Louis XVIII et Charles X. Il était avec eux à l'ouverture des États généraux. Tout le monde connaissait depuis toujours les défauts de Louis XVIII et de Charles X. Donc, il était très critique. Et puis surtout, il était très critique sur l'éducation, l'esprit qui régnait à la cour, sous la Restauration. Et c'est pour ça qu'il avait voulu que ses fils reçoivent une éducation à Henri IV, qui était la même que celle des bourgeois de leur temps. Il avait véritablement, et il avait eu une discussion extrêmement difficile avec Louis XVIII sur ce sujet, parce que Louis XVIII ne voulait pas que les fils de Louis-Philippe, du duc d'Orléans, soient élevés comme les bourgeois de leur temps. Et il avait cherché à l'empêcher, et Louis-Philippe n'avait pas cédé. Et véritablement, c'est là un point crucial, je crois. Il considérait que les Bourbons, la branche aînée, étaient en décalage avec leur temps.
Arnaud Tessier, nous nous retrouvons après cette toute dernière pause.
Les sculptures de Brigitte Terzieff entrent à l'Académie des Beaux-Arts. Des figures immenses, impressionnantes, spectrales, modelées dans le grès et percées de fer. Nous avons rencontré Brigitte Terzieff dans son atelier à Paris. Une rencontre avec une femme sincère, inspirée par la danse moderne et l'art africain. Cette émission est à écouter sur canalacademy.com.
Je reçois Arnaud Tessier, auteur d'une biographie de Louis-Philippe, le dernier roi des Français, paru aux éditions Perrin. Arnaud Tessier, je ne voudrais pas terminer cette émission sans évoquer précisément une continuité réelle, une continuité politique entre l'ancien régime, l'ancienne monarchie, et cette monarchie de Juillet, c'est la politique extérieure. La politique extérieure de la France, j'allais dire, elle s'inscrit complètement en contrepoint de la politique de Napoléon, que ce soit l'oncle ou bien le neveu. Louis-Philippe veut croire en une réconciliation.
Oui, et c'est en cela d'ailleurs que Louis-Philippe a toujours recueilli l'estime d'une tradition monarchiste qui est celle de Bainville et de Maurras, qui ont toujours fait l'éloge de la politique étrangère de Louis-Philippe en disant qu'elle s'insérait bien, s'intégrait dans une tradition qui était celle de l'ancienne monarchie, qui est une tradition quand même à la fois dans la politique étrangère de Louis-Philippe, c'est très très net dès 1830 lorsqu'il monte sur le trône et qu'il écrit à ses cousins sur les différents trônes d'Europe, il y a à la fois la volonté de montrer qu'il est le souverain de la France, qu'il est légitime et que la France doit être respectée, et en même temps il veut montrer qu'il n'a pas pour intention, alors que toute l'opinion du temps l'y pousse, il n'a pas l'intention de déstabiliser le continent européen, mais il y a les deux, c'est-à-dire je respecte, je suis un homme qui va respecter les équilibres européens, mais en même temps, je vais porter l'intérêt de la France la tête haute. Donc, dans la France des années 1830, ce n'est pas un pari facile, parce que les périls sont innombrables en raison de tout l'héritage de la grande déstabilisation révolutionnaire, de cette grande peur qu'avait décrit l'historien italien Ferrero, qui s'était abattu sur l'Europe et qui faisait que les gens qui dirigeaient la France avaient eux-mêmes peur de leur propre pouvoir et de la façon dont les choses pouvaient leur échapper, le sol, leurs pieds glissaient littéralement sur le sol. Et donc Louis-Philippe a été véritablement habité par ce double souci. Et il faut quand même bien dire qu'il a réussi, parce qu'il a en particulier évité quelque chose qui paraissait comme une fatalité à un moment donné, pendant son règne, qui était une guerre avec l'Angleterre, et dont les conséquences auraient été incalculables. Il a évité cette guerre avec l'Angleterre contre les pressions de l'opinion publique et d'une bonne partie du milieu politique, et même d'une partie des plus lucides des politiques du temps. Je crois que Tocqueville lui-même était un peu pris en défaut sur cette question. Donc il a fallu beaucoup de sens historique et d'habileté, et on voit comment Louis-Philippe le fait. Il se sert à la fois des outils de la diplomatie du temps, des négociations diplomatiques, il se sert beaucoup en particulier de Guizot, de Talleyrand, pendant la première partie du règne. Il utilise de grands diplomates, et en même temps il se sert aussi de sa condition de souverain. Et beaucoup de la diplomatie de Louis-Philippe se fait à travers des lettres qu'il écrit soit directement aux souverains européens, soit près des Anglais par l'intermédiaire de sa fille Louise, qui pour des raisons d'alliance familiale a des relations privilégiées avec la cour d'Angleterre. Donc il joue de tous les registres, il est à la fois un souverain d'Ancien Régime et puis un souverain du XIXe siècle. Et le message qu'il a toujours cherché à faire passer aux autres souverains européens, c'est « je suis votre meilleure garantie de la stabilité future de l'Europe. Mais respectez la France, respectez mon pouvoir, mais soyez convaincus que la France, en réalité, dirigée par moi, c'est la meilleure garantie de la sécurité de vos trônes. » Et les faits, d'une certaine manière, lui donneront raison, puisque sa chute en 1848 va s'accompagner d'une grande secousse européenne.
Alors justement, cette chute, on retrouve le personnage tel que vous l'avez décrit au cours de cette émission. On lui demande cette abdication, il signe cette abdication. Vous présentez, reprenez le texte, il est entouré de personnes inconnues, mais dont les yeux avides suivaient chaque mot que je traçais en criant tout à la fois « Dépêchez-vous, il faut en finir, vous n'avez pas un moment à perdre. Ne la faites donc pas si longue, la lettre, bien évidemment, d'abdication. » Et il ne mentionne pas la régence, puisque c'est une des possibilités. Et s'il ne la mentionne pas, c'est qu'il veut, encore une fois, respecter la légalité.
Oui, parce qu'une des solutions qui lui était suggérée fortement, c'était de confier la régence à la duchesse d'Orléans, la veuve de son fils aîné, et non pas au duc de Nemours, comme la loi l'avait prévu, la loi qu'il avait fait voter. Et donc, il a voulu respecter les règles. Dans cette scène étonnante où, aux Tuileries, tout le monde est autour de lui, dans une sorte de foule un peu indistincte, où on distingue des proches quand même, tout le monde le pousse de signer son abdication, on voit de manière physique, à la fois à travers son propre récit qu'il en a fait ensuite, et puis à travers un récit qui a été fait par d'autres témoins, on sent de manière presque physique, palpable, la trouille. Le système qui tombe à cause de la trouille qui s'est emparée de tout le monde, sauf en l'espèce de son épouse Marie-Amélie. Et c'est un peu terrifiant parce qu'on voit que Louis-Philippe est rattrapé par son cauchemar, par le cauchemar de ses jeunes années, le cauchemar de cette trouille, de cette peur panique qui a emporté la monarchie, qui a emporté son père, qui l'a fait terminer sur l'échafaud, et cette peur généralisée qui, lui, va le conduire sur les routes de l'exil à nouveau et l'amener à regagner l'Angleterre où il mourra amer et étonné encore de la facilité avec laquelle son système politique s'est effondré.
Est-ce qu'il n'est pas mort politiquement de son propre réalisme face finalement à ce virus romantique qui sévissait en France ?
Oui, c'est ce que dit un petit peu Maurras ou ce que dit Junger aussi. Il n'avait pas cette faculté, en tout cas il l'avait peu, Il n'avait pas cette faculté qu'avait un peu son fils et qu'a eu un homme comme le général de Gaulle de poétiser le réel. C'était vraiment un réaliste. Il trouvait que tout cela avait été vraiment très coûteux. Mais un pays comme la France, dans les circonstances qui étaient celles de la première moitié du 19e siècle, eh bien, le réalisme ne suffisait pas. Il fallait un peu poétiser le réel. Il fallait y rajouter un petit peu cette dose de romantisme. Et c'est pour ça que c'est assez touchant de voir que l'homme qu'il a le mieux analysé, c'est Victor Hugo, qui est un romantique et qui, en même temps, a su décrire dans Choses vues avec une précision incroyable cette mécanique dont Louis-Philippe était victime.
Eh bien, merci beaucoup à Arnaud Tessier d'être venu au micro pour nous parler du dernier roi des Français, donc Louis-Philippe, une biographie parue aux éditions Perrin. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.